Bon, on me pose la question, je crois qu'il y a une autre question aussi qui se posera après. Pourriez-vous reprendre cette explication que je ne comprends pas très bien, en quoi la messe est-elle un sacrifice? Premièrement, je réponds, c'est une question de foi. C'est une question de foi, c'est l'Église qui nous le dit dans le Concile de Trente. Donc ne cherchez pas à comprendre. Essayez de comprendre qu'on peut donner des analogies, on peut essayer d'expliquer comment se fait-il qu'il y ait cette intention profonde de la sagesse de Dieu, étant donné que le sacrifice de la croix suffit à tout. Alors, c'est là où je prends cette explication. Si le sacrifice de la croix était un sacrifice de justice, le sacrifice de la croix suffirait à tout et il n'y aurait pas de sacrement. Je crois que c'est à partir de là qu'on doit comprendre ce que nous devons comprendre. C'est-à-dire de saisir pourquoi Dieu a voulu qu'il y ait les sacrements. Les sacrements, c'est une surabondance dans l'ordre de l'amour. C'est parce que, de fait, le sacrifice de la croix est un sacrifice d'amour qu'il y a une surabondance des sacrements par rapport au mystère de la croix. Si, et ça c'est très important, vous voyez, parce que c'est tout la question de Port-Royal, du jansénisme et des protestants. Il ne faut jamais oublier ça. Pourquoi ont-ils cette opposition vis-à-vis du sacrifice de la croix, de la messe, comme sacrifice? Parce qu'ils ont l'impression que ça diminue la valeur du sacrifice de la croix, oubliant que c'est juste l'inverse. Et c'est pour ça que je vous avais dit, c'est analogue comme erreur à l'erreur de ceux qui prétendent que Dieu ne peut pas créer des causes secondes. En disant que Dieu crée des causes secondes, c'est supprimer la dépendance à l'égard du Créateur. Donc, ce qu'on appelle l'occasionnalisme en philosophie. C'est tout à fait analogue à ça. Il faut comprendre que lorsqu'on se place dans la perspective d'un Dieu créateur qui crée par amour, plus Dieu peut donner à la créature, plus nous comprenons la surabondance de l'amour du créateur. Il n'y a pas de rivalité entre la créature et le créateur. Eh bien, c'est la même chose. Il ne peut pas y avoir de rivalité entre les sacrements et la croix, puisque les sacrements sont totalement dépendants de la croix. Et ne font qu'exprimer symboliquement et instrumentalement toute la grandeur de la croix. Donc il ne peut pas y avoir de rivalité, d'opposition. On ne peut pas retirer quelque chose à la croix parce qu'il y a des sacrements. Alors il faut comprendre au contraire que le sacrifice de la croix est un sacrifice d'amour, et parce qu'un sacrifice d'amour, il est source de surabondance. Et que Dieu dans sa sagesse a voulu cette surabondance, la surabondance des sacrements. Ça, je crois que c'est la raison générale de l'économie divine à l'égard des sacrements. Et c'est quand même très, très important de comprendre ça. Parce que nous revenons instinctivement à la justice. Vous savez, nous avons un penchant vis-à-vis de la justice qui est effrayant. Dès que nous voyons quelque chose qui n'est pas tout à fait selon ce que nous concevons comme justice, immédiatement, ah, c'est injuste. Attention, l'économie divine n'est pas au niveau de la justice. Elle est au niveau de l'amour et de la surabondance de l'amour. Elle assume la justice. Le mystère de la croix implique un acte de justice et de satisfaction. Mais ce n'est pas ça qui est premier. Deuxièmement, une fois que nous comprenons que l'Église affirme que le sacrifice de la messe est le sacrifice de la croix, c'est-à-dire que le sacrifice de la messe est pour nous sacramentellement le sacrifice de la croix. Sacramentellement, c'est-à-dire ce qui nous donne symboliquement, et ce qui nous donne réellement le sacrifice de la croix. Nous essayons de comprendre ce que c'est que ce mode sacramentel. Parce que c'est bien ça, c'est ce mode sacramentel. Le mystère du sacrifice du Christ, il a deux modalités. Il en a une troisième. Il a deux modalités. La modalité qu'il a connue à la croix et la modalité qu'il connaît dans le ciel. éternellement Jésus s'offre en victime de propitiation. C'est dit dans l'Écriture. Donc éternellement, le sacrifice du Christ demeure. Il a eu lieu une fois d'une manière sanglante. Ce sacrifice a assumé tout l'aspect sanglant. Il existe éternellement dans la gloire selon un mode glorieux. Et il existe sacramentellement dans le mystère du sacrifice de l'Eucharistie. Mais c'est très important de regarder d'abord les deux modalités, la modalité dans le temps et la modalité dans l'éternité, pour comprendre cette troisième modalité. Parce que cette troisième modalité est en référence avec l'éternité et en référence avec le temps. Forcément. Oui, c'est comme ça, si vous voulez, pour saisir la ligne dans laquelle nous devons saisir l'intelligibilité et l'ordre d'intelligibilité de ce mystère du sacrifice. Nous voyons que le Christ, la croix, il y a quelque chose dans la croix, dans le mystère de la croix, qui est un acte intérieur, qui est le sacrifice du Christ. Il a déposé sa vie. C'est quand même ça qui est capital. Il a déposé sa vie. Il a déposé son âme, il l'a offert. Ce n'est pas les hommes qui ont tué Jésus, c'est lui qui a offert librement sa vie. Bien, le sacrifice de la croix est cet acte intérieur, qui est un acte libre d'amour, qui assume toute la souffrance. Qui assume toute la souffrance. L'encyclique sur la souffrance le montre bien. Qui assume toute la souffrance. Donc, il y a ce mode sanglant qui a existé selon une modalité sanglante. Ce sacrifice de la croix, il est éternel. L'offrande de la vie du Christ demeure. Il est victime de propitiation. L'épître de Saint Jean, puisque nous dit Saint Paul, il est victime de propitiation. Donc, il est perpétuellement celui qui s'offre pour nous. Il est l'agneau comme immolé, éternellement, mais sous un mode de gloire. Ce mode de gloire est différent de celui de la... Ici, c'est dans le temps. À tel lieu et tel temps. Là, c'est dans la gloire. S'il y a deux modalités, il peut y en avoir une troisième. Hein, ce n'est pas du tout exclu. Il n'y a rien qui m'empêche de dire ça. Une modalité de surabondance. Cette modalité de surabondance, c'est pour nous. Les sacrements sont pour les hommes. C'est-à-dire, les sacrements sont pour nous une présence efficace de ce qui est dans l'éternité. Et nous avons besoin d'un signe et nous avons besoin d'un instrument. De la grâce qui nous est donnée. Bien, le sacrement, troisième modalité, c'est le mystère de la gloire qui assume le mystère de la croix. Et c'est en même temps un lien direct avec la croix du Christ qui nous est donné. Ce mode sacramentel, qu'est-ce qu'il est? Nous avons essayé de le comprendre. Signe, instrument. Et je vous avais dit, il faut essayer de comprendre selon la modalité de l'intentionnalité. Que c'est une modalité qui est toute ordonnée à autre chose. Il ne faut surtout pas regarder comme une nouvelle réalité, dans le sens de res, de chose. Il ne faut pas chosifier les sacrements. Il faut comprendre l'intention de Dieu. C'est une intention de nous donner ce surcroît d'amour par les sacrements. Et cette modalité des sacrements, symbole et instrument, nous donne le mystère du sacrifice du Christ. Alors comprenons bien, ce n'est pas seulement une application. Ça, on pourrait dire, ah, c'est une application. Et un cadavre, un robinet, il nous donne ça, simplement. Ah, c'est pas ça, c'est plus. C'est le réalisme de l'intentionnalité divine qui est une intentionnalité substantielle. Et donc, ce n'est pas seulement une application, c'est aussi un acte sacrificiel, mais selon un mode sacramentel. Parce que dire l'application, vous voyez, ce serait tout simplement comme si de fait, oui, il y a une source infinie de... ce serait ramener le sacrifice uniquement à l'aspect virtualité, virtus, l'application, c'est plus. Il y a une présence réelle du Christ qui se sacrifie, c'est-à-dire qui se donne à nous en glorifiant Dieu. C'est ça la difficulté pour nous. Il faut aller jusque-là. C'est l'intentionnalité substantielle du mystère du sacrement. Ça donne d'une façon donc le signe et l'instrument. Ça, je crois que nous pouvons... Alors, mais je n'explique pas. Simplement, j'essaie de voir les raisons de convenance, c'est la surabondance de l'amour. Comme l'éternité est coextensible à tout le temps, on comprend très bien qu'il faut que ce sacrifice soit présent à travers toute l'Église dans son pèlerinage. Dans tout son pèlerinage, l'Église a besoin d'un signe efficace du sacrifice du Christ, puisque nous dépendons totalement de ce sacrifice d'amour. Alors, pour notre sensibilité, pour notre foi, nous avons besoin de ce signe. Nous en avons besoin parce que Dieu nous donne. On aurait pu très bien ne pas l'avoir. On aurait pu très bien vivre uniquement mystiquement de la croix, en nous référant à la croix, et uniquement avoir une commémoration à la manière de la Pâque ancienne. Or, c'est une commémoration, mais cette commémoration n'est pas simplement une commémoration dans l'ordre sensible, dans l'ordre symbolique, c'est une commémoration qui implique une causalité instrumentale, qui fait que ce qui est symbolisé est donné réellement. Donc, il symbolise le sacrifice et il donne réellement le sacrifice. Or, donner réellement le sacrifice, ce n'est pas seulement l'application, c'est le sacrifice qui est renouvelé pour nous. Mais selon ce mode sacramentel. Donc, qui n'ajoute rien à la croix, mais qui nous donne la croix. Pour nous. Dans notre foi, notre espérance et notre amour. Alors, ça, nous ne l'expliquons pas, mais nous essayons d'entrer dedans. Allons un peu plus loin. L'Église a considéré que la double consécration, que certains aujourd'hui ne veulent plus, mais quand même qui est une donnée traditionnelle dans l'Église, que la double consécration, le point de vue de la consécration du pain et la consécration du vin, symbolise la séparation du sang par rapport au corps du Christ, qui montre l'état victimal du Christ. Mais comprenez bien, quand vous dites l'état victimal du Christ, selon le mode sacramentel, de sorte que quand on voit le sang couler de l'hostie, c'est un charisme, ce n'est pas la réalité. C'est quelque chose de charismatique, ça s'ajoute aux sacrements, c'est tout. C'est parce qu'on homme de peu de foi. Alors vous avez besoin de ça pour votre sensibilité. Autrement, non. Allez, il faut bien comprendre, ce n'est pas du tout la vision de la réalité profonde. La réalité profonde est au niveau sacramentel. Et ce niveau sacramentel ne fait pas nombre avec le mystère du Christ qui nous est donné. Est-ce que c'est suffisamment net? J'y vais vite pour qu'on ne s'arrête pas trop, mais je crois qu'on ne peut pas donner d'autres explications de bien situer la raison de convenance pourquoi il y a le sacrement et essayer d'expliquer le comment de ce sacrement, selon ce mode sacramentel. Alors comprendre le pain et le vin, je vous l'ai dit, c'est de comprendre comment ce sacrifice est pour nous absolument nécessaire et qu'il est la surabondance. Et c'est pour ça qu'il y a ce double symbolisme du pain et du vin qu'on retrouve à travers toute l'Écriture. Oui.
La modalité différente, la modalité par exemple à la scène et à la messe, puisqu'il y a une vie prophétique, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Pourquoi?
C'est la même.
C'est
exactement la même. La scène est tout simplement le moment où le législateur a institué. Jésus a institué la scène en prévision de la croix, mais au point de vue, si vous voulez, c'est l'institution du sacrement, mais c'est le même sacrement, puisque le prêtre, alors on regardera ça dans l'action du prêtre, ici je regarde le sacrement en lui-même de l'Eucharistie. Nous allons voir ensuite comment le sacrement est lié au sacerdoce. Alors, c'est du côté du sacerdoce qui est différent. Mais du côté de la consécration, c'est la même. Et donc, du côté du sacrifice, c'est le même. Jésus anticipe son sacrifice. Et pourquoi il anticipe son sacrifice? Pour bien montrer que ce sacrifice, ce n'est pas les hommes qui l'ont fait, c'est lui qui s'offre. Et il continue pour montrer que ce sacrifice est un sacrifice d'amour. Oui. Alors, c'est le même, puisque c'est la présence du Christ dans sa totalité, sous la présence du pain, sous la présence du vin. Oui. Donc, il n'y a qu'une modalité différente avant la croix ou après la croix. Mais dans le regard de la sagesse de Dieu et dans le regard de la foi, c'est le même sacrement.
C'est uniquement pour cette raison qu'on montre
la sacrifice
qui
donne
librement,
qu'il
a fait avant.
C'est oui, parce que c'est qu'un testament. Il faut qu'il soit avant. Un testament doit être fait avant. Oui. C'est la valeur du testament qui est le mystère de la croix. Or, pour que ce testament soit démontré de façon symbolique, il faut qu'il soit avant. Donc, il fallait qu'il soit avant. Pour nous faire comprendre que c'est, de fait, la nouvelle alliance dans la chair et le sang. C'est la nouvelle alliance. C'est une alliance, donc, ça doit être fait par le législateur avant la mort. Et qui doit être fait en pleine liberté. Parce que s'ils étaient faits après, quand ils n'étaient plus libres, ce ne serait plus l'action d'un législateur. Et c'est pour ça que c'est le dernier acte libre du Christ, le dernier acte volontaire du Christ au milieu des siens, et qu'il fait sous cette forme de repas à cause de la Pâque ancienne. Sous le point de vue du repas. Pour nous, ce n'est plus fait sous le point de vue de la Pâque ancienne est tombée, oui, et il ne reste plus que le geste du Christ. D'où la nouvelle liturgie de la messe, autour du geste du Christ. Oui. Alors, au point de vue liturgique, c'est très très différent. Ce sera intéressant, du reste, à voir qu'au point de vue liturgique, toute la différence qui existe entre les deux, vous voyez. Et comment l'Église, parce que l'Église aurait pu très bien comprendre autrement, l'Église aurait pu très bien comprendre que la Pâque ancienne devait toujours être commémorée, étant donné que Jésus a fait ce geste lié à la Pâque ancienne. Vous voyez. C'est la fête, hein. Donc l'Église aurait pu continuer. Alors, comprenons, sacrement du Christ, sacrement de l'Église. Et alors là, c'est la part de l'Église qui est toute la part liturgique. Et le Christ laisse à l'Église toute cette part liturgique d'invention liturgique, où l'Église, comme une épouse, va coopérer. Et c'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait bien comprendre la différence entre le point de vue de la parole et du sacrement. Quand il s'agit de la parole, l'Église n'ajoute rien. Quand il s'agit des sacrements, l'Église ajoute la liturgie. Ça fait très étonnant. Pourquoi ? Parce que quand il s'agit du geste, le geste est un signe affectif que l'épouse doit ajouter quelque chose. C'est pour ça que c'est sacrement de l'Église. Il y a quelque chose, vous voyez, dans l'opposition de certains par rapport à la liturgie ancienne et la liturgie nouvelle, la liturgie de Saint-Pie-V et la liturgie de Paul VI. Pourquoi sont-ils dans cette attitude? Il y a un petit blocage qui s'est fait dans leur foi. Le blocage entre la foi et le point de vue de la liturgie. La liturgie n'est pas au niveau de la foi immédiate. La liturgie dépend de l'Église. Donc, ce n'est pas la même chose. Il y a deux choses différentes. Voyez, alors, ce serait intéressant de voir, justement, quand il s'agit de l'Eucharistie, quand il s'agit de tous les autres sacrements, c'est l'Église qui a mission de donner la liturgie des sacrements. Et Jésus n'a pas donné la liturgie des sacrements, tandis qu'il nous a donné la parole de Dieu, qui a été gardée intégralement. L'Église n'ajoute pas. La seule chose que l'Église ajoute à la parole de Dieu, c'est la théologie. C'est l'herméneutique. Donc c'est la théologie, c'est l'interprétation. L'Église ajoute une herméneutique à la parole de Dieu. Mais tout le monde sait très bien la différence entre l'herméneutique et la parole de Dieu. Tout le monde sait bien la différence entre la parole de Dieu et la théologie. Eh bien, c'est la même chose pour les sacrements. Les sacrements, en tant que geste du Christ, proviennent du Christ, et l'Église les a enveloppés d'une liturgie. Et c'est, je crois, la raison pour laquelle, de fait, il n'y a pas une imitation de la scène. La scène n'est pas imitée, l'Église a inventé une liturgie propre de l'Eucharistie pour que nous comprenions bien, et c'est sous le souffle de l'Esprit-Saint, pour que nous comprenions bien que les sacrements sont les sacrements de l'Église, donc c'est les sacrements de l'épouse, qui ajoutent au geste de l'épouse ce qu'elle-même, dans sa conscience d'épouse, comprend qu'il faut ajouter. Et que l'Église a toujours le pouvoir de modifier la liturgie des sacrements. Elle la modifie quand elle le juge bon. pour qu'il soit plus adapté au peuple chrétien, puisque c'est prospère en lui-même. Et donc la liturgie est là comme une adaptation des gestes du Christ. Oui. Changement, par exemple, de langue, passage du latin à la langue vulgaire. C'est ça, c'est l'Église. Et l'Église a le pouvoir de le faire. Et rejeter cela, c'est oublier que l'Église est conduite par l'Esprit Saint. Vous voyez, ça se répond un peu à ce que vous voulez, mais vous voyez, ce serait intéressant à étudier de près le pourquoi, la convenance que le Christ lit ça à l'ancienne Pâque. Nous l'avions vu un tout petit peu au début. Parce qu'au début, j'avais pris le point de vue du texte même de la scène pour comprendre comment Jésus lit ça à l'ancienne Pâque, pour bien nous faire comprendre que la Pâque ancienne est changée par la Pâque nouvelle. Or, la Pâque, c'est ce qui était fondamental et ce qui était ultime par rapport à la loi. La loi est moins importante que la Pâque. La Pâque représentait dans l'ancienne alliance le cœur, hein, ça représentait l'âme de toute ancienne alliance. C'était la Pâque, c'était le moment du passage de Dieu, le moment du passage de Yahvé. C'était Yahvé qui sauve son peuple. Or, ce salut n'est pas parfait, il demeure imparfait, mais c'est bien dans la même ligne. Et c'est pour ça que notre nouvelle Pâque, c'est le mystère de l'Eucharistie. Et alors, pour bien nous faire comprendre que cette nouvelle Pâque est parfaite, qu'elle a sa signification par elle-même, l'Église a laissé tomber l'ancienne Pâque. Pour bien faire comprendre que la nouvelle Pâque, elle s'attache directement au Christ. Je crois que c'est la raison profonde. Il y a deux raisons, vous voyez, pour... Et on comprend pourquoi l'Esprit Saint fait ça. Les deux raisons, c'est pour nous montrer que la nouvelle Pâque n'est pas dépendante de l'ancienne Pâque. Il ne faut pas passer par l'Ancien Testament pour être chrétien. La fameuse discussion à propos de la circoncision, on comprend très bien. Et tout ça, c'est pour nous faire comprendre la plénitude du Christ. C'est que le Christ n'est pas seulement l'achèvement, il est la reprise totale de tout. Et donc, au point de vue liturgique, tout ce qui était ancien tombe. Il ne reste plus que le Christ. Et c'est, je crois, la raison pour laquelle, de fait, l'Esprit Saint a voulu cette liturgie nouvelle. C'est une liturgie nouvelle qui a scandalisé. Il ne faut pas l'oublier. Les exégètes d'aujourd'hui disent que l'Épître aux Hébreux a été écrite pour cela. Parce qu'il y a eu un petit scandale. La liturgie ancienne était meilleure que la nouvelle. La liturgie ancienne, c'était liée à la Pâque ancienne. Donc, restons liés à la Pâque ancienne. Et on voit très bien les vieux catholiques. Les intégristes modernes attachés ce sont les vieux catholiques. Ils ne veulent pas de changement. Ils veulent à tout prix rester dans, en disant c'est meilleur. Ça a existé depuis tout de suite, dès le début, ça. Et l'Épître aux Hébreux a été écrit pour montrer l'excellence du sacerdoce du Christ, comparativement à tout sacerdoce lévitique. Et donc l'excellence du sacerdoce du Christ n'a plus besoin de s'appuyer sur la béquille. Une fois qu'on a la perfection, on n'a plus besoin. Et la perfection doit se manifester en plénitude. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a cette liturgie nouvelle. Vous voyez ? Que la scène a été séparée de ce qui était donné par le Christ. Et on comprend très bien que le Christ, lui, a voulu au contraire le lien pour nous montrer la continuité et en même temps la rupture. Ça, c'est l'aspect liturgique. Je me suis arrêté, moi, à l'aspect sacrement. Dans toute sa force, pour que nous comprenions mieux ce qu'est ce sacrement et qu'est-ce que signifie théologiquement, dans la perspective de la sagesse de Dieu, le sacrement. C'est ça qu'on avait intitulé le point de vue de la sacramentalité. Le point de vue, c'est ça le point de vue important. Oui.
Je ne sais pas si c'est le lieu qui a pensé par une théologie de la concélébration.
Alors évidemment, alors, voir tomber l'église, ça va être très bien. Ça va être encore le lien entre la liturgie et le sacrement.
La première question qui se pose, c'est y a-t-il une grâce propre, et dans ce cas, quelle est-elle, dans le renouvellement sacramentel lui-même, qui ne soit pas celle donc de la communion des fidèles, qui ne soit pas l'usage du sacrement, mais qui soit celui de la consécration ? Y a-t-il une grâce propre attachée pour la multiplication des messes ?
C'est pour la concélébration, vous voulez dire.
Oui. Y a-t-il une grâce propre au renouvellement sacramentel du sacrifice, ou est-ce qu'elle est seulement attachée à l'usage de ce sacrement ?
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais c'est une question très difficile, parce que quand vous touchez là, parce que, je dirais, le Concile a affirmé certaines choses. Quand on regarde le livre du Père Carl, sur tous les points de vue de la concélébration, c'est du reste à lire, c'est très intéressant, c'est très bien fait au point de vue historique. Au point de vue théologique, ça ne me satisfait pas, ça c'est une autre question, mais c'est très très bien fait au point de vue historique. Donc c'est très intéressant au point de vue historique de voir comment la concélébration au Concile a été mise en lumière. Et puis comment, de fait, ce que nous faisons actuellement n'est pas du tout ce que le Concile a demandé. C'est intéressant de voir ça au point de vue historique. Autrement dit, on a poussé pour la concélébration, pour le faire plus, alors que le Concile ne demandait pas et autorisait la concélébration. Et c'est d'autant plus curieux de voir que c'est le père abbé de Solène, et qui était, selon le père Joseph de Sainte-Marie, qui était vraiment la raison dominante pour laquelle on est passé. C'est le père abbé de Solène, c'est très curieux de voir ça. Parce que théologiquement, on croirait plutôt que ce serait plutôt l'inverse. Bien non, c'est lui qui, sans très bien réfléchir sur ce que ça représentait exactement. Alors moi, je crois que là, il y a deux raisons qu'il faut voir. Il y a le sacrement et la liturgie du sacrement. Oui. Le sacrement, c'est le sacrifice. C'est ça le sacrement, c'est le sacrifice. Puis il y a la liturgie. Je comprends très bien. Personnellement, je dis ça à titre personnel, je comprends très bien qu'il y ait une liturgie solennelle dans la concélébration. Mais il ne faudrait pas que cette liturgie solennelle, puisqu'au point de vue de la liturgie, c'est évident que c'est du côté solennel de la liturgie. Et c'est beaucoup plus du côté de la manifestation, comme toujours la liturgie. C'est du côté de la manifestation glorieuse. La liturgie est glorieuse, il ne faut pas l'oublier. Et le sacrement, il est lié à la croix. Il y a deux tendances très très curieuses qui ne s'opposent pas puisque la croix est liée à la gloire. Mais il y a quand même deux aspects très très différents. Le sacrement fait appel immédiatement à la foi, tandis que la liturgie fait appel à la foi liée à la vertu de religion. La liturgie ne fait pas appel uniquement à la foi, mais ça fait appel à la foi liée à la vertu de religion. Donc il y a deux aspects différents qui peuvent très bien à certains moments, vous voyez, avoir une certaine opposition entre les deux. Et c'est ça que le père Joseph Sainte-Marie n'a pas, il me semble, pas assez vu la différence entre les deux. Pas assez vu le point de vue du sacrement comme tel et le point de vue de la liturgie. Donc, au point de vue sacrement comme tel, l'Église n'a pas prononcé et n'a pas précisé s'il y avait un seul sacrifice ou si chaque prêtre, dans son intention, offrait le Christ dans son sacrifice renouvelé par le sacrifice. Ce n'est pas précisé. Les raisons que donne le père Joseph Sainte-Marie, pour moi, ne sont pas du tout déterminantes. Pas du tout. Puisque c'est de fait l'intention du prêtre qui est la chose principale. Vous voyez, c'est lié à la matière, mais la matière est présente. C'est l'intention du prêtre. Alors là, il prend trop l'aspect, il me semble. Ça, je vais à ce moment-là, quand je l'ai lu, je vais noter certaines choses, et puis si ça a disparu, ça n'a pas d'importance. Mais ça m'avait intéressé, parce que c'est intéressant, ce serait intéressant à le reprendre, ça, au point de vue proprement sacrifice, au point de vue proprement théologique, d'essayer de comprendre. Alors, je reviens tout simplement à ce fait, c'est qu'au niveau, niveau sacrement, nous ne pouvons rien dire. L'Église n'est pas encore prononcée. Alors, je crois que seul le Saint-Père peut se prononcer.
La première question que j'aimerais poser, c'est pourquoi multiplier les messes?
Ah oui, mais ça c'est autre chose. Non, je pars d'abord, je crois qu'il faut d'abord partir de cette question de la concélébration, pour comprendre ça.
Parce que c'est un des arguments de la Sainte-Marie. D'abord, la nécessité de multiplier les messes pour que la grâce sacramentelle propre à la réalisation de ce sacrement, qui ne soit pas celle de l'usage, c'est un des arguments.
Ça, c'est vrai. Saint Thomas avait déjà traité la question pour la question des messes privatives. Saint Thomas dit que les messes privatives, chaque prêtre, en tant que prêtre, il n'est pas obligé de dire le sacrifice de la messe tous les jours, mais il est normal, puisqu'il peut le faire, qu'il le fasse. Pourquoi alors cela? c'est pour que, de fait, l'univers, notre monde d'aujourd'hui, soit offert à Dieu par le Christ dans le sacrement, à chaque lieu et à chaque moment. Voyez, donc la multiplication des messes, c'est dans la ligne même du sacrement. Le sacrement propteromines, le sacrement demande d'être multiplié comme sacrement. Chaque prêtre, devant lui, pouvant le faire, devant le faire. Voyez, indépendamment de l'assistance. On a lié ça à l'assistance, mais ce n'est pas du tout. Le sacrifice du Christ a une valeur en lui-même d'être offert. Et donc, à ce moment-là, on comprend que chaque prêtre le dit pour le salut du monde aujourd'hui. Dans sa messe, dans l'Eucharistie, chaque prêtre offre le monde tel qu'il est relié à lui. Vous voyez ? Tel qu'il le connaît, tel qu'il l'aime. C'est tout son, toute l'humanité, si vous voulez, mais avant tout l'humanité, telle qu'il la prend dans sa foi. La messe d'un chartreux, par exemple, mais le chartreux n'a pas de vie apostolique, mais la messe d'un chartreux se comprend de cette manière, c'est que de fait, dans sa vie contemplative, il porte le monde entier vers le Seigneur, et bien sa messe donne un sommet à sa vie contemplative. Un sommet sacramentel à sa vie contemplative. Pour comprendre que sa vie contemplative est liée intimement au mystère de la croix. De sorte que chaque chartreux comprend, et ça je crois que c'est la grande tradition des chartreux, chaque chartreux comprend que s'il est prêtre et si Dieu lui a demandé d'être prêtre, c'est pour non pas une vie apostolique, mais c'est pour offrir le sacrifice de la messe. Et offrir le sacrifice de la messe privative. Ils ont la permission, ils ont eu depuis très longtemps la permission de dire la messe sans aucune présence. Alors que normalement les autres prêtres doivent avoir une présence symbolique dans celui qu'on appelle l'enfant de cœur. N'est-ce pas ? Tandis qu'eux avaient la permission de pouvoir dire. Et c'est pour ça que les chartreux peuvent dire leur messe selon le rythme personnel qu'ils veulent. Et donc c'est une messe qui peut durer plus longtemps. Parce que c'est une messe plus contemplative dans ce rythme-là. Alors, c'est rattaché à ce fait que chaque prêtre, comme prêtre, a une présence du Christ pour l'univers tel qu'il est aujourd'hui.
C'est l'usage du sacrement.
L'usage du sacrement, c'est le sacrement lui-même. C'est pas l'usage. Moi, je dis, c'est le sacrement lui-même.
Parce que vous dites que le sacrement, il est signe et instrument.
Oui, signe et instrument.
Donc, comme tout signe et instrument, il faut en user.
Oui.
Est-ce qu'il a une valeur propre?
Qui ne peut pas être constitué autrement, il est constitué par l'usage.
Voilà, donc,
le sacrement n'existe, et c'est l'usage ordinairement qu'on puisse accommoder.
Parce qu'il semble, enfin, je ne vais pas le dire là, mais il semble donner un prix, une grâce propre, simplement au fait de efficherer sacramentum, au fait de.
Efficherer sacramentum. Le sacrement est fait.
Est-ce qu'il y a une grâce propre pour l'Église?
C'est sûr.
Et quelle est celle?
Il est eucharistique. Oui, il est eucharistique, il est donné de façon symbolique et réelle. Il est pour toute l'Église et pour toute l'humanité.
Le sacrifice du Christ est pour toute l'Église.
Oui, ça c'est l'application du sacrement dans le temps et le lieu. À chaque moment, à chaque temps, puisque l'Église permet, puisque c'est l'Église qui règle le point de vue du pouvoir sacerdotal, l'Église permet à chaque prêtre de dire la messe tous les jours. La messe pour le prêtre, et le Saint-Pierre insiste beaucoup là-dessus, reste le sommet de l'activité du prêtre. Donc, si c'est le sommet de l'activité du prêtre, c'est pourquoi ? C'est parce que par la messe, il offre le Christ lui-même pour l'Église d'aujourd'hui, pour l'humanité d'aujourd'hui et pour donc, l'humanité qu'il faut sauver aujourd'hui. Il offre sacramentellement. C'est le sacrifice du Christ qui nous est donné actuellement pour le salut du monde d'aujourd'hui. Donc, la messe en elle-même a cette valeur infinie. Alors, l'usage, si vous voulez, ben je prends l'usage dans le sens plus de la communion, dans le sens de l'usage d'application fidèle. Alors que si vous prenez l'usage dans ce sens-là, je dirais que l'usage est nécessaire puisque le sacrement n'existe que quand il le fait. Et c'est dans ce sens-là qu'est fixé le sacrement. Et que c'est rattaché à chaque prêtre. Vous voyez ?
C'est le seul dans le sacrement, et peut-être pour l'aider lui à offrir le monde.
Exactement.
Est-ce qu'il y a une grâce?
Non.
Comme si lui, s'il était ailleurs, s'il pensait autre chose.
Ça n'a pas d'importance. Il est lié à l'Église comme prêtre, et son activité suprême de prêtre, c'est d'offrir le sacrifice de l'Église. Il offre le Christ, il s'offre. Puisque c'est le sacrifice du Christ et de l'Église. Le sacrement, c'est le sacrifice du Christ et de l'Église. Donc si c'est le sacrifice du Christ et de l'Église, comme il offre le Christ sacramentellement, il s'offre lui-même. Et c'est en ce sens-là que le sacrifice l'engage profondément dans une vie de don réel. Ça l'unit à la croix du Christ. Ça l'unit lui personnellement, mais pas uniquement lui, tous ceux pour qui il offre le sacrifice. Donc le monde entier. Et le monde entier, tous ceux qui veulent s'unir, même si de fait ce n'est pas actuel et explicite, c'est le monde entier. Et alors, on comprend qu'à ce moment-là, l'activité sacerdotale représente un sommet d'activité du prêtre. Oui. Alors, la question délicate, parce que pour moi c'est la question délicate, savoir si dans la concélébration, le mystère du sacrifice de ces prêtres unis ensemble dans la concélébration. Vous voyez, c'est toujours très très difficile parce que là on fait intervenir quelque chose de quantitatif dans un ordre où il n'y a pas de quantité. Et c'est ça qui me gêne toujours beaucoup. Parce que le sacrement, le point de vue sacramentel n'est pas quantitatif. C'est une intentionnalité divine. Alors, des prêtres seraient dans une très grande ferveur et dans une ferveur beaucoup plus grande dans la concélébration, c'est très possible que cette concélébration est supérieure à des prêtres qui disent leur messe bâclée dans un coin. Oui, c'est très possible. Ça, c'est très possible. Et c'est peut-être la raison pour laquelle l'Église, l'Esprit Saint a permis ça. C'est pour que certains prêtres reprennent le sens davantage de la messe dans la concélébration.
Vous dites là que c'est la manière dont les prêtres offrent.
Oui.
Ça multiplierait les messes dans la concélébration, ça expliquerait.
Oui, exactement. Et moi, je crois. Je croirais assez volontiers ça. C'est pour ça que le Père Joseph, j'ai aimé beaucoup toute la partie historique qu'il a donnée, mais la partie proprement théologique ne me semble pas concluante. Et j'en arrive à dire que seul le Saint-Père peut préciser la chose. Parce que l'Église, le sacrement de l'Eucharistie est remis à l'Église. Et donc, seul le Saint-Père, au fond, ça dépasse, je dirais, le point de vue propre du théologien.
Est-ce qu'on peut dire un peu plus, parce que vous dites que ça représente sacramentellement le sacrifice du Christ. Le Christ s'offre lui-même. Est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait...
La vie d'une personne à plus.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y aurait autant de sacrifices que de relations du prêtre aux victimes? Alors ça veut dire qu'il y a plusieurs prêtres vers un même, les mêmes oblats, il y a quand même plusieurs relations par lesquelles ce sacrement du Christ s'offrant.
Oui.
Je ne sais pas si vous pouvez dire.
Oui, alors c'est justement là où, au fond, le point de vue du sacrifice ne serait pas, un seul sacrifice, c'est chaque prêtre qui s'est dans l'action active.
Est-ce qu'il est, il y a à ce moment-là ce sacrement
du Christ s'offrant ? Parce que, vous voyez, c'est qu'on oublie trop, moi c'est ça qui me semblait un peu oublié dans le point de vue, c'est que c'est quand même l'action du prêtre. C'est l'intention de Jésus qui s'offre, qui fait le sacrifice. Ce n'est pas l'aspect victimal qui est spécifique. Ce qui est spécifique, c'est l'intention du prêtre. Or, chaque prêtre agit in persona Christi. Donc, s'il agit in persona Christi, il entre dans l'intention du Christ. Et comme on est dans un mode sacramentel, il n'y a pas d'impossibilité. Oui, il n'y a pas d'impossibilité, ce n'est pas une impossibilité au sens profond, de dire que les sacrifices, le sacrifice du Christ est renouvelé sacramentellement par chaque prêtre qui concélèbre. Il n'y a pas d'impossibilité. Ça, il me semble qu'on ne peut pas dire au sens strict qu'il y a une impossibilité, parce que c'est sacramentel. Il me semble, vous voyez, mais je dirais que moi, le théologien comme tel, le théologien privé comme tel, il ne peut pas. Il peut simplement montrer des raisons de convenance et puis c'est tout. Mais la décision doit venir du pape. de celui qui est bon, responsable en face de Dieu du mystère de l'Eucharistie. Alors, il y a une autre raison, ça, c'est au point de vue des fidèles, ça c'est autre chose. Vous voyez, propter homines. Les sacrements sont pour les hommes. Alors, il y a une autre raison qui fait que quand on mobilise les prêtres uniquement pour une seule messe et que les fidèles n'en peuvent pas assister, alors là c'est désastreux. Ou bien aussi une autre raison, c'est que le prêtre s'habitue à ça, ne dit plus sa messe que quand il y a une célébration, ce qui est encore plus désastreux. Vous voyez ? Alors là, c'est toute une question d'éducation, de comprendre ce qu'est le sacrifice de la messe.
Oui ? Par exemple, un prêtre dans l'assemblée, assistant à la messe, et disant les paroles.
Et là, il est en opposition avec ce que l'Église demande. Donc, c'est contraire à ce que l'Église demande. Vous voyez, moi, je prends ce que l'Église demande. Je ne regarde pas les bavures.
Mais donc, c'est comme il dit, il y a quand même, je veux dire, on ne peut pas expliquer ça. Comment sur l'aspect liturgique, par exemple.
C'est évident. Et surtout l'intention de l'Église.
Oui.
Vous n'avez pas le droit de modifier comme vous voulez le canon.
Oui, mais par exemple, je ne sais pas, on assiste à la messe ici, et on est au fond de l'Église, et vous dites la messe. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez ?
Ah oui, c'est attention. Alors là, il n'y a plus de sacrement.
C'est pas
non, alors là, vous confondez le sacrement avec l'intention.
Oui, mais alors justement, là, ça ressemble. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que vous dites qu'il y a. C'est lié à l'intention.
Premièrement, mais il y a le reste aussi. Le prêtre est présent. Il est présent, il est autour de l'autel. Il voit les oblats.
Oui, mais vous.
Ah, s'il ne voyait pas, ce serait différent. Il doit les voir.
Ah bon ?
Ben, c'est évident. C'est sûr.
Mais c'est pas une question de distance, pas de mètre.
C'est pas une question de distance, pas une question de mètre, mais c'est quand même une question de distance, une question de mètre. Et c'est pour ça que l'Église demande qu'il y ait la tenue ecclésiastique en acte. Pour ça. C'est à cause de ça. Alors là, c'est tout le point de vue du sacrement qui est lié à quelque chose de visible. Il y a quelque chose de visible dans le sacrement. Tandis que la foi, elle, est uniquement visible. Elle est dans l'ordre de l'intention. Tandis que dans les sacrements, la foi est liée au signe. Si la foi est liée au signe, vous ne pouvez pas écarter le signe indéfiniment. Vous êtes bien obligé de dire que ce sont ceux qui participent immédiatement. Et quelqu'un qui est dans l'assistance, vous voyez, eh bien non, je dirais qu'il est en dehors du sacrement quand même.
Est-ce que du côté du signe, le signe n'est pas nécessaire que. Le prêtre, je veux dire, l'unicité du prêtre, parce qu'il y a Jésus qui sort, mais il est saint, et la signification, vous voyez, du côté du signe, est-ce qu'il ne faut pas respecter cette espèce d'unité de Jésus s'offrant, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est moins signifiant quand il y a 40 prêtres, vous voyez, il me semble que les deux sacrifices du signe, c'est. Ben, je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire ?
Non, je ne vois pas. je ne vois pas.
Que la personne du
Oui. Alors les autres diront, venez, il y a les deux, pas au point de vue du signe, il faut bien voir au point de vue du signe, je suis d'accord avec vous que de fait au point de vue du signe, agir in persona Christi exprime l'unité du prêtre. Mais on peut dire aussi qu'il y a toute l'Église qui est portée par le Christ. Et que pour nous faire comprendre que toute l'Église est portée par le Christ, il faut qu'il y ait non seulement quelque chose de personnel, mais aussi qu'il y ait la charité fraternelle. Alors c'est le signe de la charité fraternelle, vous voyez, qui est là.
Est-ce que le signe n'est pas plus du côté de l'efficience, dans l'ordre de la sacramentelle, que du côté de la réception ?
Il y a les deux. Vous ne pouvez pas séparer les deux. C'est un signe, donc un signe qui manifeste, et l'aspect de l'efficacité vient après. L'efficacité est dans le signe. Oui. Alors, vous ne pouvez pas, au nom d'efficacité, restreindre le signe. C'est ça que c'est pas comme ça, au point de vue théologique. Mais je crois qu'on ne peut pas exagérer le point de vue de la signification sans qu'il y ait un élément sensible. C'est très délicat, cette question-là. Mais c'est bien d'essayer d'y penser. Qu'il faut y penser, il faut réfléchir sur ce que représente la concélébration aujourd'hui. Alors, il y a une question, vous voyez, d'engouement, il y a une question de mode. Alors ça, c'est désagréable possible. C'est désagréable au possible, parce que c'est le sacrement n'est pas fait pour ça. Alors moi, on comprend très bien, on peut très bien dire que la question du recueillement, la question de l'intensité de prière est très difficile quand il y a une multitude. Mais ça vient de procession et de la considération. Alors, on comprend qu'à ce moment-là, c'est uniquement un signe de charité fraternelle, d'union de charité fraternelle. Ça peut très bien se comprendre. Vous voyez, de cette manière-là, il serait d'ordre beaucoup plus de la signification. Et qu'à ce moment-là, on dit, quand ça dépasse un certain nombre, on demande aux prêtres de dire leur messe, s'ils le peuvent, privative. Vous voyez, parce que vraiment, quand on est 200 ou 300, ça fait la considération.